Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jinune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat.
Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, peut-être tu peux te présenter et puis nous raconter ton parcours dans les grandes lignes et puis nous introduire surtout tes projets et activités.
Oui, très volontiers. Alors, j'ai fait une formation d'économiste d'entreprise à la HEG de Sierre et Fribourg. Et puis après ça, j'ai eu des postes dans 3 entreprises différentes, donc j'ai pas mal bougé. C'était principalement dans la grande distribution. J'étais responsable régionale au tout début de ma carrière pour les magasins Aldi. Et j'ai ouvert des magasins. Donc à la fin, je m'occupais de 3 magasins dans le canton de Fribourg. Après, j'ai fait un petit passage dans une multinationale à Genève chez Procter & Gamble. Et ensuite, j'ai travaillé pour leshop.ch. J'ai ouvert un supermarché Drive pour eux. C'était un projet pilote. C'était super intéressant. Et après, gentiment, j'ai eu 30 ans et c'est là que l'entreprise familiale est venue sur la table, le sujet est venu sur la table. Et puis j'ai décidé de la rejoindre, de retourner en Valais et de rejoindre l'entreprise pour la reprendre. Parallèlement, j'ai fait aussi une formation exécutive MBA en entrepreneuriat et développement d'entreprise. Puis après cette formation, j'ai démarré 2 autres projets. Un qui s'appelle Yodeli.shop. C'est des adhésifs pour recouvrir les portes de cuisine. Et puis aussi la marque Camirosis, qui est une marque de prêt-à-porter, designée et fabriquée en Suisse.
Okay. Donc avant qu'on discute peut-être un peu plus de la reprise de l'entreprise familiale, tu vas nous raconter tout ça. Je voulais commencer peut-être par ton projet parallèle, parce que je crois que c'est absolument d'actualité. Donc la marque de prêt-à-porter dont tu parlais à l'instant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et voilà, peut-être qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Et puis où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Alors, en fait, le projet s'appelle Camirosis. C'est aussi le nom de la créatrice qui est mariée maintenant, qui s'appelle Camille Valérosis. On a nommé la marque à son nom. Je l'avais rencontrée il y a quelques années et puis j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Donc elle fait déjà des créations qu'elle vend sur son site internet. Et elle est très douée, elle a beaucoup de talent. Et comme ça marche super bien et que tout le monde lui demande toujours de faire plus de quantité, ce qui n'est pas possible parce qu'elle coud elle-même, on a décidé de faire une marque. En fait, on a discuté ensemble et puis on a dit, bah, écoute, lançons une marque parce que là, clairement, il y a du potentiel et puis c'est un chouette projet. Et en fait, on est 4 hein, dans le groupe. Donc, il y a aussi son mari et mon ami. Et la marque, c'est... Donc, le concept, c'est une marque suisse. Les designs, ils sont de Camille. Et la confection, elle est faite dans un atelier de couture à Saint-Gall.
Ce qui est rare, hein, je précise, mais c'est rare que tout soit fait en Suisse. Hein.
Ouais. Exactement, ouais. Puis c'était aussi le concept qu'on a décidé. À la base, on s'est demandé si on voulait le faire en Europe, dans d'autres pays, aussi pour avoir des prix moins chers. Et puis finalement, c'était vraiment ça qui faisait du sens. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On veut aussi que la marque soit éco-responsable, qu'elle soit de haute qualité. Et puis... que ce soit des styles chics, décontractés, intemporels, bon, c'est ce que Camille fait maintenant. Ça va être des quantités limitées. Et puis, la vente, elle est principalement online.
Super. Mais écoute, on se réjouit de voir ça. Vous lancez... Vous avez déjà lancé.
Alors ouais, mais c'est tout nouveau, là, vraiment tout récent. En fait, on a été challengé aussi un petit peu avec le Covid parce qu'on avait prévu à la base de faire... des événements sous forme de pop-up store pour que les clientes puissent venir essayer les modèles. Et puis, bah, avec les événements, on a décidé de renoncer à ça. Et finalement, on a twisté un petit peu le concept. Et puis, on a innové. On s'est dit, faisons une chaîne d'essayage par la poste.
Waouh, ok. Voilà. Quoi ça consiste exactement?
C'était assez osé. Donc, en fait, comme on a seulement un modèle en 5 prototypes à faire essayer, donc les 5 tailles, c'est pas possible de l'envoyer à plusieurs personnes en même temps. mais on voulait quand même le faire essayer. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont inscrites à la chaîne d'essayage. Et puis, le concept, c'est que les clientes jouent le jeu. Donc, elles reçoivent le colis chez elles avec les tailles. Elles peuvent essayer. Puis, dès que c'est fait, elles envoient à la suivante.
Ah, c'est génial.
Elles puissent également essayer. Ouais. Puis, nous, ça nous permet aussi d'avoir un petit feedback direct. On a des images qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux, etc.
Ah, c'est hyper innovant, effectivement. Je me réjouis d'entendre ton feedback après coup.
Et la vente, elle a commencé aussi tout récemment. C'était le 1er novembre. Et on fait une vente sur 15 jours. Après les 15 jours, la vente fermera parce qu'on veut pouvoir livrer avant Noël.
Et si on veut en savoir plus sur la marque, est-ce que c'est présent, j'imagine, sur un site web, sur Instagram ?
Ouais, bien sûr. Donc, Camille, elle fait surtout la communication sur Instagram parce que c'est là que son audience est principalement. Le compte, c'est Camille Rosis, tout en un mot. Elle est aussi sur Facebook, bien sûr, et il y a aussi le site web camillerosis.com.
Super. Du coup, je reviens au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est la reprise de l'entreprise familiale. Je ne suis pas sûre que tu l'aies précisé tout à l'heure, mais c'est donc Paul Marais SA, qui est une entreprise active dans le domaine de la construction. Alors, je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise en tant que telle, mais je voulais aussi commencer par te poser la question que je crois tout le monde te pose, donc je ne vais pas être très originale. Comment ça fait d'être une femme qui plus est jeune dans le secteur de la construction ?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient constamment. En même temps, je comprends parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup de femmes dans le domaine de la construction. Et puis surtout, on valait. Donc voilà. En fait, moi, personnellement, ça ne m'a jamais dérangée. J'ai toujours perçu ça comme un avantage. Parce que finalement, c'est un petit peu différent. Et puis, peut-être les gens ont une autre perception. Ils sont peut-être... intriguée, et puis aussi le langage est différent avec les clients qu'avec un homme. Franchement, j'ai jamais eu de gros soucis. En fait, l'accueil, il était bon de manière générale. Et pour moi, ça a toujours été des rapports humains, en fait, entre les personnes. Donc,
ça ne changeait pas tant que ça.
Non, ça ne change pas tant que ça. Je pense que ça... Parce qu'il y a souvent des femmes aussi qui me demandent ça. Puis elles me disent... C'est un peu comme si elles me disaient « Ah, mais moi, je ne le ferais pas parce que c'est trop masculin. » Mais je pense que ces femmes, elles ne devraient pas se mettre des barrières, en fait. Que ça vient souvent de nous qu'on se met des barrières. Et puis, bon, après, je fais pas... On n'est pas non plus une entreprise de construction, en fait. On est une entreprise qui vend des matériaux de construction. C'est de la distribution. C'est du commerce, donc il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas le faire.
Et puis, est-ce que... Enfin, tu disais tout à l'heure que tu étais passée par différentes entreprises au début de ta carrière. Est-ce que c'était clair pour toi depuis toujours que tu allais reprendre l'entreprise familiale ou tu as hésité à prendre d'autres chemins puis à poursuivre dans l'axe qui était le tien initialement ?
Alors non, en fait, c'était pas du tout clair à la base. Il faut dire, l'entreprise, elle est située dans un petit village en Valais, au pied de Verbier. Donc, le village s'appelle Le Châble. Et j'ai grandi dans ce village, mais j'avais toujours en tête, plus tard, il faut que j'aille travailler plutôt dans une ville, que je fasse des expériences, etc. Donc, clairement, quand j'ai grandi, j'ai toujours dit, je ne reprendrai pas l'entreprise.
C'était un nom catégorique.
C'était un nom, c'était en fait, je ne veux pas être forcément dans cette région. Et puis, c'était peut-être le domaine aussi. Je me disais, c'est peut-être pas forcément très sexy devant des matériaux de construction. Voilà. Et puis, en fait, quand j'ai eu 20 ans, après mes études, j'ai fait différentes expériences. Et je me suis rendu compte que la vie en Valais, c'était quand même vachement cool. Il y a quand même une certaine qualité de vie. Et puis aussi, il y avait l'attachement à cette entreprise familiale. Et je savais que ma famille était en train de chercher des solutions pour remettre l'entreprise, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre de la famille qui était intéressé à la reprendre. Et j'ai une sorte de déclic juste avant mes 30 ans. Puis je me suis dit, mais moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je me suis toujours dit aussi, quand j'ai terminé mes études, qu'un jour, j'aurais une petite entreprise. Puis finalement, y en a une dans ma famille, donc c'est bête de
passer à côté,
de pas y aller.
J'imagine que c'est un processus assez compliqué, la passation d'une entreprise familiale. Enfin, c'est complexe aussi émotionnellement. C'est ton grand-père, je crois, qui a créé
oui.
l'entreprise.
Ouais.
Comment ça s'est passé pour toi, la transmission à ta génération, à ton niveau de génération, et pour ta famille aussi, comment ça s'est mis en place?
Alors, c'est vrai que c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise en 59, et lui, il a donné les rênes à mon oncle et à ma maman en 1990. Je dirais que du fait que eux ont déjà avaient déjà connu cette phase de transmission, de transition, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient déjà passés par là. Et puis, en fait, ils étaient conscients des problèmes qui pouvaient arriver, etc. Alors ça, déjà, c'était une grande chance.
Ça aide un petit peu.
Ouais, c'est clair. Et puis, l'autre grande chance que j'ai eue, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils avaient déjà fait des démarches pour chercher une solution. Et ça fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Ils avaient déjà plus ou moins estimé la valeur de l'entreprise. Il y avait beaucoup de solutions qui étaient déjà présentes. Et puis, j'ai pu un peu prendre ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis sinon, bah, c'est clair que c'est hyper émotionnel hein, comme processus parce que tu travailles quand même avec ta famille. Mais je pense que j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'ils ont été bienveillants et du coup, ça s'est super bien passé. Quoi.
Parce que tu as repris quand, du coup, en quelle année?
Alors, je suis entrée en 2013. La passation financière, on l'a fait assez rapidement du fait qu'ils avaient déjà tout préparé, ils avaient des choses en tête. En 2014, c'était la passation financière. Puis la direction, officiellement, c'était en 2017. Mais ils étaient encore bien présents. En fait, c'était bien aussi parce que ça s'est fait progressivement avec eux. Donc, ils ont travaillé à temps partiel, puis réduit petit à petit.
D'accord.
Pendant plusieurs années. Puis c'est vraiment en 2019 que les deux sont partis à la retraite l'année passée.
Et c'était pas trop dur pour eux de lâcher du jour au lendemain ou bien ils n'ont pas tellement lâché la main et puis ils t'accompagnent encore un petit peu?
Non, alors franchement, ils ont pas mal lâché. Mais il faut dire aussi une chose, c'est qu'en 2019, l'année où ils sont partis à la retraite, j'ai aussi fait un virage avec l'entreprise. J'ai fait un partenariat avec un plus grand groupe. C'est le groupe Bringen, qui est aussi une entreprise suisse, mais plus grande que nous. Ils sont à peu près 400 employés. Et puis, ce qui fait que je pense qu'ils partaient beaucoup, beaucoup plus l'esprit léger que si j'avais été toute seule.
Oui.
Ça, j'ai quand même un certain soutien maintenant.
Et tu le disais avant qu'ils avaient commencé à explorer des pistes, enfin des solutions pour la succession. Mais est-ce que toi, tu étais déjà immergé un petit peu dans l'opérationnel et la stratégie parce qu'en fait, tu vivais là-dedans ou pas du tout, avant d'être vraiment considéré pour la reprise?
Non, mais franchement, pas du tout, ouais, c'est vrai. Bon, après, l'entreprise, elle fait quand même partie de ma famille. Et puis, elle était dans le village où j'ai grandi. En plus, mes parents habitaient en face de mes grands-parents. Donc, en fait, je voyais tout le temps mon grand-père, puis ça faisait partie de la famille. On allait souvent à l'entreprise dire bonjour, etc. Puis quand j'étais petite, des fois, j'aidais à coller les enveloppes pour les factures, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment été impliquée parce que je l'ai pas cherché.
Aussi, ça explique.
Voilà, ouais, c'est ça. Et puis, mais je suivais ça de loin. J'étais grosso modo au courant de ce qui se passait, mais je n'avais pas une vision non plus très claire de,
ouais,
de ce
ouais,
que c'était.
Pas forcément quoi. Tous les détails. C'était un peu plus une vision générale de certains aspects.
Oui, ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu impliques encore certains membres de ta famille dans les prises de décision ou non, tu les as complètement écartés?
Ben, en fait, ma maman, elle est encore au conseil d'administration. Mon oncle, il est encore très présent, hein. Enfin, je dirais, il n'est pas très présent dans l'opérationnel, mais il est toujours disponible. Si je veux lui poser des questions, il est toujours là, donc c'est vraiment chouette. Et ma maman, bah, c'est vrai que je la vois souvent, parce que aussi on est dans le même village, je travaille là où elle habite. On parle beaucoup de l'entreprise, et puis elle m'écoute, et je pense que ça l'intéresse aussi de savoir comment ça se
oui,
passe.
Oui, de suivre, c'est quand même un peu son bébé encore. Donc.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais d'un côté, j'apprécie beaucoup parce qu'ils ne se mêlent pas vraiment de l'opérationnel. Ils sont plutôt là pour donner des conseils et j'ai beaucoup de chance pour ça.
Ils te font confiance et puis ils donnent leurs conseils si besoin, mais ce n'est pas,
oui.
une présence trop écrasante, j'imagine.
Oui, exactement, c'est comme ça.
Et comment ça se passe justement une transmission d'entreprise sur les aspects financiers?
Alors, c'est complexe.
Je me dis.
Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte. Par exemple, il faut déjà décider quels sont les actionnaires, qui est majoritaire. Il faut regarder si c'est des actionnaires dans la famille qui sont les héritiers, etc. Après, il y a toute la partie évaluation d'entreprise, fixer un prix. Il y a aussi le financement qui vient sur la table quand pas forcément on doit racheter des parts. Il y a aussi le volet fiscal, en fait, qui est super important. Bah, comme je l'ai dit avant, ils étaient déjà beaucoup renseignés quand je suis arrivée dans le processus, qui était super agréable. Mais on a quand même encore demandé des conseils à beaucoup d'organismes et beaucoup de personnes différentes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais conseiller à quiconque qui aimerait reprendre une entreprise, c'est de pas seulement demander un seul conseil. Parce que ben voilà, le fiscaliste, il va pas vous répondre la même chose que le banquier, que le notaire, etc. quoi.
Et quand toi, tu as pris officiellement les rênes de l'entreprise, donc je peux imaginer qu'il y avait quand même une petite pression sur tes épaules, même si ta famille peut-être ne la mettait pas ouvertement, mais j'imagine qu'à titre personnel, tu disais « bon, faut y aller quand même ».
Ouais.
Est-ce que toi, rétrospectivement, tu te sentais bien outillée de par tes expériences passées, tes formations, et t'as démarré en étant assez sereine, ou c'était un petit peu panique intérieure et voilà, t'as appris un peu sur le tas et au fur et à mesure?
Ouais, ben... Du fait que c'était très progressif comme reprise, que j'avais toujours la deuxième génération qui était là pendant quand même quelques années, pour ça c'était vraiment bien. J'étais assez sereine avec ça. Et puis après c'est clair, quand tout d'un coup c'est le moment, c'est clair, ça change la donne. Mais ouais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée durant plusieurs années.
Oui, tout au long du processus, voilà. Pas juste au début, mais...
C'est ça. Ouais. Puis il y a bien sûr des choses que j'avais apprises dans mes métiers, je dis mes métiers, mais mes emplois précédents. Bah, par exemple, tout ce qui était gestion du personnel ou bien gestion générale, avec ça, je me sentais assez à l'aise. Puis il y a d'autres aspects que clairement j'ai dû apprendre et que je suis toujours en train d'apprendre, c'est tout ce qui est commercial. Parce qu'à la base, je ne connaissais pas du tout les matériaux de construction, je n'étais pas dans ce domaine. Et puis, ça, c'est quand même une grosse part du gâteau.
Ouais, mais c'est clair.
Voilà. Heureusement, il y a toujours une équipe qui est là. Et puis, c'est aussi la force de l'entreprise. C'est qu'il y a une belle équipe qui est soudée. Et puis, les compétences, elles sont dans l'entreprise.
Et justement, je voulais te poser la question de comment est-ce que tu avais géré tous ces aspects-là, comment tu avais trouvé ta place, parce que j'imagine qu'il y avait de nombreux challenges. Tu t'en évoquais quelques-uns, mais non seulement conduire l'entreprise, puis assurer la continuité aussi après la passation, mais voilà, affirmer son leadership, accompagner les salariés, etc. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Ça semble énorme, dit comme ça.
Bah, encore une fois, c'était progressif. Alors, on fait une chose après l'autre, et puis ça se fait naturellement. Je pense au niveau de l'équipe, déjà ils étaient contents qu'il y ait quelqu'un de la famille qui reprenne parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer à la base. Donc voilà, et je pense qu'ils étaient contents. Après, ce que je peux dire, ce qui est important, c'est plutôt toujours bien communiquer avec tout le monde, que ce soit les clients ou bien l'équipe au sein de l'entreprise. En fait, toutes les personnes qui ont un rapport de près ou de loin avec l'entreprise, ce qui est important, c'est de communiquer. Puis c'est aussi comme ça, c'est en ayant une communication ouverte qu'on fait sa place, quoi.
Bah, du coup, quel a été le plus gros défi peut-être que tu as eu à relever depuis que tu as pris ta place?
Le plus gros défi, c'était très certainement de trouver un bon partenaire pour l'entreprise. Ça, c'était vraiment un gros challenge. Et pour moi, c'était une décision, disons, je ne dirais pas qu'elle est définitive, mais d'une fois qu'on la prend, on dit « bon, ben voilà, maintenant, je suis convaincue que c'est la bonne route, et puis on y va, et puis on construit là-dessus ». Donc, c'était vraiment ça.
Et après ta reprise dans l'entreprise, à quel moment en fait tu as rejoint Jean Woman et pourquoi? Est-ce que tu sentais que tu avais besoin de te faire épauler d'une certaine façon? Tu as envie de partager des doutes, des interrogations?
En fait, je dois dire, je faisais déjà partie d'autres clubs de réseautage. Donc tout ce qui était échange avec d'autres entrepreneurs, j'avais déjà ça. D'accord. Mais Jane Wynn, j'ai rejoint, c'est une amie qui m'en a parlé. qui avait entendu parler de Genuine à Genève, et puis elle m'a dit, quand ça ouvre en Valais, il faut vraiment que tu ailles voir ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai rejoint, je pense, pas très longtemps après le début. On était encore assez peu, on était moins de 20 hein, quand j'ai commencé. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'est que en fait, dans les autres clubs de réseautage, il y a vachement peu de femmes. Mmh. Entrepreneurs. En général, on est, je pense, entre 10 voire 20% maximum. Et j'avais presque l'impression qu'il n'y avait pas de femmes entrepreneurs en Valais, même si j'en connaissais quelques-unes, c'est ça. Elles ne sont pas visibles, en fait. Et à Genuine, j'ai fait des rencontres super. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'il y a, il y a vraiment beaucoup d'entraide. C'est bienveillant.
C'est vrai, je confirme.
Voilà.
Puis voilà, quand je recherchais un petit peu l'autre jour le contexte un petit peu d'une transmission d'entreprise, parce que c'était un domaine qui m'était voilà, totalement étranger, je t'avoue. Et je me demandais comment est-ce que tu gérais l'équilibre qui d'après moi est subtil entre les traditions qu'il faut préserver d'un côté parce que c'est un héritage familial, et puis de l'autre côté de la modernité à intégrer, par exemple ce partenariat que tu as mis en place. Comment est-ce que tu composes avec ça, avec un peu cette dualité?
Je pense qu'il faut toujours garder en tête que... il faut garder ce qui est bien, il faut conserver ce qui est bien, et puis il faut améliorer ce qui est moins bien. Il faut pas tout vouloir changer, tout vouloir révolutionner parce qu'on reprend quelque chose d'existant. Et puis, en fait, les traditions dans l'entreprise chez nous, c'est tout ce qui est valeur familiale. C'est vrai que ça a toujours été comme ça, il y a une bonne ambiance familiale, puis ça, on veut conserver. Et le domaine lui-même, la distribution de matériaux de construction, c'est un domaine qui est aussi assez traditionnel, dans une région qui est restée encore assez traditionnelle. Donc tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas changer en fait, parce que ça fonctionne, et puis ça fonctionne bien.
Il n'y a pas de raison de réinventer la roue forcément.
Ouais. C'est ça, et puis après, bien sûr, il faut faire des changements, parce que si on reste... sur l'acquis, ça ne fonctionne pas forcément à long terme. Mais il faut toujours garder en tête qu'il faut garder ce qui fonctionne, quoi.
Absolument. Est-ce que toi, justement, tu as mis en place des nouveautés ou des réorganisations majeures? Enfin, tu parlais du partenariat. Est-ce qu'il y a eu autre chose?
Ouais, après, il y a eu des plus petites choses, comme par exemple l'aspect du programme informatique ou des choses comme ça. Mais je dirais que c'est plus des petites décisions.
Des choses organisationnelles, un peu plus. Ouais.
De gestion. Le gros changement, c'est vraiment le partenariat, parce que là, en fait, on change maintenant de secteur géographique d'activité. On était vraiment sur la région de l'Entremont, et puis on est en train de se développer plus loin, en Valais.
Et vu qu'on arrive gentiment à la fin de l'interview, je voulais te demander, ça fait quand même quelques années que tu es dans cette reprise et cette transmission. Est-ce qu'il y a des enseignements clé que tu as envie de partager ici et qui pourrait aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi?
Ouais, je pense qu'il y a plein d'enseignements qu'on pourrait dire, mais si je réfléchis à cette question, ce que j'aurais bien aimé savoir, ou bien ce que j'étais, une chose à laquelle j'étais pas sensible avant d'avoir commencé, c'est que quand on est entrepreneur, on a tout le temps des barrières. Donc, il y a tout le temps des problèmes qui arrivent.
C'est moins qu'on puisse dire.
C'est ça. Et puis, bien sûr, ça, je m'imaginais que ça allait arriver. Mais au début, peut-être j'étais effondrée quand il y avait un petit souci qui arrivait. Et puis, au final, on voit que souvent, c'est pour le mieux. Quand il y a un changement, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ça ne fonctionnait pas bien avant, et puis...
Ça amènera du meilleur d'une certaine façon.
Exactement, oui. Ouais.
Et dernière question pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais peut-être souhaité entendre quand tu t'es lancée, je ne sais pas, un mentor imaginaire qui t'aurait transmis un conseil?
Ouais, au début, j'étais peut-être moins ouverte pour demander des conseils aux gens de mon entourage. Et puis, peut-être ça aurait été bien que je le fasse depuis le début. Parce que clairement, on se ferme des portes si on se ferme sur soi-même, et puis on ne va pas demander de l'aide. Donc, demander de l'aide, ne pas hésiter, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes très bienveillantes autour de nous.
C'est vrai. Merci beaucoup.
Merci à toi.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.